Bonsoir, bonsoir. Merci à tous d'être présents pour cette cérémonie d'ouverture des 18e Utopiales qui ont lieu à Nantes. On a un petit temps discours avec des remerciements tout de suite. On aura ensuite l'affiche expliquée par Laurent Durieux. Tout de suite, je vais demander à Denis Caille, le directeur général de la Cité, de me rejoindre pour quelques mots. Merci à tous.
Merci, bonsoir et bienvenue à la Cité. Vous êtes venus très nombreux et c'est toujours un plaisir pour nous. La Cité, en quelques mots, investit chaque année depuis assez longtemps sur le Festival des Utopiales. C'est une joie pour nous quand on voit le succès rencontré par le Festival. Cette année, c'est une année en plus particulière puisque c'est l'année des 25 ans de la Cité qui tombe parfaitement puisque le thème des Utopiales, c'est le thème du temps. Alors, je vais vraiment être court, je vais surtout remercier tous nos partenaires. Je commencerai par notamment Laurent Durieux qui a bien voulu porter la réalisation de l'affiche représentant les Utopiales. Vous aurez le temps l'occasion de discuter ou de le rencontrer tout à l'heure. Aussi, rappeler que la Cité fait un effort pour être inclusive. On a des dispositifs divers qui vont se mettre en place. Carte blanche avec la ville de Nantes pour les associations, les enfants à l'hôpital et les femmes détenues à la maison d'arrêt seront aussi concernés par notre festival. On va avoir lundi prochain une ouverture de la Cité à 2000 écoliers qui vont venir et lycéens qui vont venir dans le cadre de demi-journées scolaires. C'est un sujet, c'est important pour nous que la Cité soit ouverte au plus grand nombre. Rapidement aussi, quelques remerciements. Alors évidemment au président Roland qui et à notre administratrice culturelle Jeanne qui ont préparé ce festival avec nous. Remerciements aussi à la ville de Nantes, aux bibliothèques municipales, à la région Pays de la Loire, au Centre national du livre, à la Sémitan, à l'INSERM, au CEA, au Conseil des arts et lettres du Québec et du Canada, la Science et Fantasy Growth Foundation de Chine, des partenaires médias aussi qui nous accompagnent sur cette édition, Canal Plus Cinéma, Presse Océan, WIC, Science et Avenir, Le Point Pop, France Culture, France Bleu, Loire-Océan. Grand merci au président Lehoucq qui prendra la parole juste après. Grand merci aussi à toutes les équipes techniques de la Cité qui font un travail remarquable. Et je passe tout de suite la parole à Aymeric Cesseau, élu à la ville de Nantes.
Merci. Merci Denis Caille. Vous avez vu, il y a un monsieur à ma gauche. Simplement, je vais remercier l'association des interprètes en langue des signes qui nous permet de faire suivre les conférences au plus grand nombre. On peut les applaudir, c'est la deuxième année qu'ils sont là et c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Je donne la parole à Aymeric Cesseau, adjoint au maire de Nantes, en charge de la lecture publique et des médiathèques.
Merci, bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un moment particulier, un moment émouvant que ce temps d'inauguration des Utopiales. Elles ont aujourd'hui 18 ans. On peut dire donc que c'est une édition majeure. Elles ont été portées sur les fonts baptismaux ici, à la Cité des Congrès, dont je salue le directeur qui vient de s'exprimer, mais aussi Marie Masson, qui s'occupe des affaires culturelles et de la communication. Elles sont entourées par les deux anciens directeurs de la Cité. Vous voyez que la Cité est fidèle aux Utopiales et fidèle à la science-fiction. Alors, 18 ans, on espère et on sait que les Utopiales ne partiront pas, même si elles passent le permis de conduire. Je sais qu'ici, elles ont été pouponnées à l'univers vernien, aux imaginaires des surréalistes dans cette ville, avec les beaux équipements qui nous accompagnent tout au long de l'année, la bibliothèque municipale qui sont nos jeunes lecteurs qui décerneront le prix BD, le muséum qui a travaillé lui aussi sur le temps et l'éternité pendant toute l'année, et puis surtout ces Utopiales, elles sont pour figure tutélaire une équipe aimante. Je pense bien entendu aux anciens présidents, directeurs artistiques, Pierre Bordage, Patrick Giger, Hugo Bellagamba, et puis à l'équipe actuelle, Jeanne Debatte, sa directrice artistique, et le président Le Houk, qui, à défaut d'être un président jupitérien, sait transmettre le goût des autres, le goût des belles choses, la passion communicative pour tout ce qui touche aux sciences. Alors, le temps, cette année, Isaac Asimov disait qu'il n'y avait pas de paradoxe dans le temps, puisque le temps éliminait de lui-même tous les paradoxes. Eh bien, puisque cette grande figure de la science-fiction nous le dit, nous allons mettre cette phrase à l'épreuve. Ça a déjà commencé, nous sommes aidés en ça par de nombreux scientifiques qui trouvent leur place tous les ans ici, par tous les auteurs, beaucoup d'auteurs, certainement des auteurs ici présents qui ont traité de cette question. Et puis, on voit que ça bouge. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le dernier Blade Runner, j'en suis désolé, mais même les réplicantes peuvent désormais vieillir. Désolé pour le spoil, mais c'est assez flippant pour que je me sente obligé de vous le communiquer. Que celui qui n'a jamais eu envie de faire passer le test Voight-Kampff à ses collègues de travail me jette la première pierre. Nous avons également du temps en plus, 18 ans, la croissance des utopiales n'est pas tout à fait finie, ça fait 2 ans que nous bénéficions d'un jour supplémentaire, et puis nous accueillons chaque année des partenaires supplémentaires que nous voulons évidemment remercier, mais c'est la première fois qu'on accueillera des studios de France Culture pour avoir des émissions en direct depuis la Cité des Congrès. Je ne serai pas plus long, parce que je sais que vous attendez, comme moi, Roland Le Houk, pour lancer plus avant cette belle 18e édition. Il me reste à vous souhaiter de belles utopiales à toutes et à tous. Vive la République galactique, vive Nantes et vive la science-fiction. Merci.
Et Aymeric l'a dit, place maintenant à Roland Le Houk, qui est président de l'association du festival.
Donc bienvenue aux Utopiales, qui ont déjà démarré ce matin, mais pour cette inauguration, je me dois de vous fêter la bienvenue, de vous souhaiter la bienvenue. Ce grand festival de science-fiction de la ville de Nantes, qui est produit et organisé par la Cité des Congrès, où nous sommes actuellement. Et ce festival de science-fiction, comme vous l'avez déjà vu depuis les éditions précédentes, et celle-ci encore une fois, c'est un festival de science-fiction avec de la science dedans. C'est normal, dans science-fiction, après tout, il y a science, et non pas une science fictive, comme on pourrait l'entendre trop souvent, si on prend la traduction française, si on prend le vocable français, mais une science-fiction, c'est-à-dire une fiction scientifique, où la science va servir de moteur, et à la réflexion que nous allons mener sur notre monde. D'ailleurs, les Utopiales, c'est un des rares festivals qui mêle à ce point les sciences et l'imaginaire. Et ça, j'en suis très fier comme président, descendant évidemment de ceux qui m'ont précédé, mais aussi avec Hugo Bellagamba et maintenant avec Jeanne Debatte, notre déléguée artistique, nous avons mis plus de sciences dedans, de sorte, et des sciences au sens large, pas que les sciences dures, les sciences molles, pas que les sciences humaines, les sciences inhumaines aussi, de sorte que ce festival soit un festival intégral qui adresse des questions, qui traite toutes les questions que se posent les humains. Le thème de cette édition est « temps ». Alors on pourrait se dire pourquoi avons-nous mis tant de temps pour choisir ce thème-là. Le voyage dans le temps est quand même, par exemple, un des tropes essentiels de la science-fiction. Nous avons mis tant de temps parce qu'il y a d'autres thèmes intéressants à traiter. La science-fiction est une discipline, est un genre très riche, mais aussi parce que cette année s'inaugurait la nouvelle exposition permanente du Muséum d'histoire naturelle de Nantes, dont le thème est éternité. Et donc, il nous semblait logique, comme festival de science-fiction nantais, de pouvoir faire une sorte de combo, comme on dit chez les joueurs de jeux vidéo, entre le thème des Utopiales et les événements culturels, scientifiques qui se passent dans la ville de Nantes, avec un thème, bien sûr, qui parle aux auteurs et qui parle au genre de la science-fiction. Donc ce thème de temps, comme tous les jours, maintenant tous les ans maintenant, sera décliné en 4 sous-thèmes, et déjà décliné, puisque une journée pratiquement s'est écoulée, en 4 sous-thèmes qui seront traités dans les tables rondes et dans les discussions, les rencontres avec les invités, les auteurs, bien sûr, les artistes et les scientifiques de toutes obédiences. Encore une fois, les sciences au sens le plus large possible. On commence bien sûr par le voyage dans le temps, le premier sous-thème, le voyage dans le temps, qui depuis Wells et sa machine à explorer le temps, reste, ce voyage dans le temps, un grand pourvoyeur d'histoire extraordinaire. Est-ce que c'est possible de faire un voyage dans le temps? J'espère que vous avez tous assisté à ma conférence de ce matin. Hein, ceux qui n'étaient pas là, lèvent le doigt. Étienne, tu étais là ce matin? Non. Tu n'as pas vu ma conférence voyage dans le temps. Bon, c'est pas grave, tu en sais largement suffisamment pour la rater sans problème. Le voyage dans le temps est-il possible? Répondre à cette question, en fait, ça nécessite de se poser la question sur la nature profonde du temps. Qu'est-ce que c'est que cette construction? Et qu'est-ce que l'on peut en dire du point de vue des sciences? Rappelons aussi qu'il y a de nombreuses disciplines scientifiques qui sont des disciplines que l'on pourrait qualifier d'historiques, l'histoire, bien sûr, mais aussi l'archéologie, la paléontologie, la géologie, l'astrophysique, qui cherchent à reconstruire le passé à partir des indices du présent. Puisque les humains ont créé la mesure du temps, est-ce qu'il est possible de modifier le temps? Voilà un autre thème qui va nous intéresser. En répondant positivement à cette question, l'uchronie, qui est un genre de la science-fiction, modifier un événement du passé pour voir ce qui se produirait si cet événement s'était avéré différemment. Donc en répondant positivement à cette question, oui, on peut moduler le temps à notre gré, eh bien, elle nous interroge, elle présente des modèles alternatifs, des réalités alternatives, ou des mondes différents qui interrogent notre présent. La mémoire aussi, notre mémoire d'humain, est un moyen de voyager dans le temps, mais c'est quelque chose de fragile, notre mémoire, qui est sujet à des fautes, à des erreurs, qui est sujet aussi à des pathologies, et cette mémoire fragile modifie nos souvenirs et notre capacité à nous remémorer le passé, bien sûr, mais aussi à nous projeter dans le temps. Et c'est ce que nous dira notamment Francis Eustache, qui est un grand spécialiste de la mémoire, qui viendra nous parler de ses travaux. Que nous réserve le futur? Bien sûr, ça c'est une grande question. De quoi demain sera fait? Quand vais-je mourir? De quoi? Est-ce que ça fera mal? Est-ce que la Terre sera détruite? Est-ce que l'humanité restera présente sur Terre pendant une grande période de temps? Eh bien, les augures, d'abord, lire dans les astres, lire dans les cartes, lire dans les entrailles des animaux. L'humanité a toujours cherché à deviner ou à voir se faire une idée de son avenir. Pour les sciences, c'est peut-être pas totalement dénué de fondement, puisque il semble qu'avec des équations bien posées, bien résolues et connaissant les conditions initiales, on puisse dire quelque chose du futur. Mais même les sciences ont des doutes, et plus que des doutes, cette capacité à dire le futur à partir du présent. Et la science-fiction, qui est une manière d'expérience de pensée sociale, qui interroge justement les conséquences du progrès scientifique et technique sur les humains, eh bien, la science-fiction, comme expérience de pensée sociale, elle explore aussi le futur, et en posant souvent des questions qui fâchent, des questions difficiles et des questions qui nous concernent sur notre avenir proche ou lointain. Et quel rapport, on pourrait se demander aussi, quel rapport la science-fiction entretient avec la prospective ou la futurologie? La fin des temps est-elle proche? Voilà aussi une grande question qui traverse l'humanité. La fin des temps est-elle proche? Nous savons que les civilisations, comme les humains, individuellement, finissent par mourir. Si l'humanité disparaissait, que resterait-il de nous? Victor Hugo disait « Quand la Terre claquera comme une noix sèche dans l'espace, toutes nos œuvres n'ajouteront pas un atome à sa poussière. » Ce n'est pas tout à fait juste, parce que les humains ont manipulé les noyaux des atomes. La physique nucléaire nous rend capables de manipuler le noyau des atomes, et certains noyaux de ces atomes ont été modifiés par l'action humaine. Dans 5 milliards d'années, estiment les astrophysiciens, le Soleil deviendra une étoile géante rouge, va dévorer la Terre probablement. Que se passera-t-il avant? La Terre peut-elle échapper à ce funeste destin? Et si l'on contemple le futur immense qui s'ouvre devant nous, l'univers lui-même aura-t-il une fin? Nous verrons encore une fois dans ces utopiales que la science-fiction, qui oscille entre le passé et le futur, est une passerelle que bâtissent les auteurs, qui nous permet finalement et réellement d'interroger notre présent. Ce festival ne serait pas possible sans un certain nombre de partenaires dont Denis Caille a fait la liste. Je ne vais pas les rappeler tous ici, mais je les remercie sincèrement. J'adresserai un remerciement plus appuyé sur nos partenaires scientifiques, l'INSERM et le CEA, qui nous soutiennent fidèlement depuis maintenant plusieurs années. Donc je remercie évidemment la CD Congrès, qui nous accueille ici et qui produit le festival, et donc Denis Caille, et avant lui, Paul Billaudot, et la ville de Nantes, bien sûr, Emeric Seasso, qui est un soutien indéfectible aux Utopiales depuis la première heure. Bien sûr, je me dois de remercier tous nos invités, les invités scientifiques, les auteurs, les artistes, tous ceux qui interviennent et les modérateurs qui permettent de faire le lien entre vous, public, et les intervenants, de sorte que la table ronde ne soit pas une cacophonie, même si les intervenants sont parfois extraordinairement intéressants, mais ne soit pas une cacophonie et que ça soit digérable et que vous puissiez interagir avec les intervenants. Une mention spéciale à Laurent Durieux, à qui cette année on doit l'affiche, la magnifique affiche du festival. Et je crois que là, vraiment, on a une affiche qui fait honneur au festival et qui pose bien le thème dans son iconographie du voyage dans le temps. Il va vous la décrypter dans quelques instants après cette séance inaugurale. L'équipe éditoriale aussi, je vais rappeler les noms de l'équipe éditoriale des Utopiales. Jeanne de Batz, qui est notre déléguée artistique pour la deuxième édition, avec laquelle on travaille en étroite collaboration pour former ce programme extrêmement dense. Georges Merel, qui est plus spécialement notre référent pour la bande dessinée. Frédéric Tan, à qui vous devez le programme cinéma absolument incroyable. Des films que vous n'avez probablement jamais vus sur grand écran, par exemple « C'est arrivé demain ». Ça, c'est un truc que vous ne le verrez pas sur grand écran. Le documentaire sur Stephen Hawking, ça vous le verrez pas sur grand écran parce qu'ils sont difficiles à avoir. Il a réussi à avoir des merveilles et bien d'autres, sans parler de la programmation de la compétition internationale. Gilles Francescano, qui s'occupe des expositions, et bien sûr à qui l'on doit, en collaboration avec Laurent Durieux, la magnifique exposition des affiches de Laurent Durieux. Adélaïde Legrand, qui s'occupe des jeux de rôle et des jeux de plateau, et donc là, au sous-sol, on ne les voit pas là, ils sont enterrés, mais au sous-sol, allez-y avec vos enfants, découvrir l'univers du jeu de science-fiction. Adélaïde qui est là, voilà, merci Adélaïde, je vois qu'elle rigole, et qui est vraiment un univers incroyablement riche, incroyablement plaisant à découvrir en famille, et que tous les modérateurs, tous les médiateurs d'Adélaïde vous permettent de découvrir. Et Florent de Grissac, qui lui est responsable des jeux vidéo, vous en avez un exemplaire ici, et qui montre toute la richesse et tout l'intérêt. Au-delà, j'ai tout à l'heure croisé quelqu'un qui disait « Ah, mais les jeux vidéo, c'est pas juste tac-boum, pan-pan-pan ». Non, c'est pas juste tac-boum, pan-pan-pan, c'est ça, mais c'est aussi autre chose. Il y a toute une réflexion que l'on peut mener sur les jeux vidéo, leur usage, et la façon qu'ils ont de décrire notre monde, ou de représenter finalement notre monde. Bien sûr, la coordination, parce que cette équipe éditoriale, il y a une coordination, il y a Marie Masson et toute son équipe à la Cité des Congrès, Laura, Xavier, Pauline et Christelle, qui sont vraiment les charpentes structurelles. S'ils ne sont pas là, tout s'écroule avant que les Utopiales se fondent. Mais les Utopiales, une fois faites, grâce à eux, et ça tourne encore pendant qu'ils sont là, tant qu'ils sont là, ça tourne, il y a aussi les 75 bénévoles qui sont là. Et si eux disparaissent maintenant, je peux vous dire, ça s'écroule instantanément. Donc je les remercie aussi très sincèrement pour leur action bénévole de rouage, d'huile qu'ils mettent dans les Utopiales et qui fait que vous pouvez à la fois trouver vite les toilettes pour le tout petit, en même temps à quelle heure ça se passait, la conférence d'Étienne Klein et je ne sais pas où elle est, et le film où est-ce qu'il est, bref, toutes les informations que toutes les questions que vous vous posez aux dernières secondes et auxquelles eux sont capables de répondre très rapidement. Il y a aussi les équipes techniques, si je peux vous parler dans un micro qui marche, s'il y a des choses qui se projettent, s'il y a des écrans, des escalators qui fonctionnent, bref, si tout fonctionne, des équipes techniques, avec particulièrement Samuel et Céline cette année, qui nous rejoint pour cette organisation. Et bien sûr, on ne les voit pas, ce sont les obscurs, ils sont là-bas derrière les cadrans, derrière les consoles, mais ils sont extrêmement importants pour la fluidité de toutes les interventions qui se font, la fluidité technique de projection, de micro, de son et de vidéo. Bien sûr, on doit parler aussi des traducteurs, on les voit pas beaucoup, alors bien sûr en langue des signes on les voit, ils sont là, ils font des choses, et je les remercie du fond du cœur de pouvoir être là, de permettre d'ouvrir ce festival à un public plus large que celui auquel nous étions habitués. Et puis ceux qu'on voit pas aussi là-bas, là, ils sont les obscurs, ils sont derrière la vitre, les traducteurs de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais, qui permet d'avoir ces invités internationaux qui font la richesse aussi du festival, puisque la science-fiction, c'est un genre évidemment international. Il est né en Europe, singulièrement en France, mais c'est maintenant un genre qui a très largement dépassé ses frontières. Et donc les traducteurs sont aussi très importants pour nous permettre d'avoir un plateau très riche du point de vue linguistique. Le lieu unique, c'est un lieu qui se situe à 200 mètres à peu près d'ici, parce que c'est un fidèle collaborateur du festival. Patrick Giger, son directeur, a été directeur artistique des Utopiales, donc c'est vous dire à quel point l'intrication intellectuelle est forte entre le festival et le lieu unique. Et pour finir, je vais remercier évidemment l'association du Festival international de science-fiction de Nantes, dont je suis et j'ai l'honneur d'être le président, qui accompagne la cité pour la ligne éditoriale, qui permet de bâtir le programme que vous avez là, et notamment avec les libraires complices de Nantes, la librairie spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire, la plus grande librairie de science-fiction pendant l'intervalle des Utopiales de tous les temps, pendant les 5 jours des Utopiales, et pendant l'intervalle des Utopiales de toute la France, probablement de toute l'Europe, certainement du monde entier, et par-delà donc toute la galaxie, voilà, je l'ose le dire, c'est la plus grande librairie de la galaxie. N'hésitez pas à y aller, la carte bleue risque de fondre, faites attention. Donc voilà maintenant le moment de naviguer sur le long et tumultueux fleuve du temps, puisque c'est souvent l'analogie, le temps s'écoulerait comme un fleuve, mais Étienne Klein nous en a dit beaucoup plus là-dessus. Et donc, j'ai le grand plaisir de déclarer officiellement ouvertes les 18e Utopiales et de vous remercier très chaleureusement pour votre présence massive à cette nouvelle édition du grand festival de science-fiction de Nantes, les Utopiales. Merci à vous. Et maintenant, je laisse la parole encore à Jérôme Vincent pour la suite du festival. Merci à vous. Merci.
Merci Roland. Place maintenant à l'affiche du festival, vous l'avez vu. Je vais appeler sur scène Laurent Durieux qui nous a fait cette année cette affiche avec son micro. Alors il faut savoir que pour les Utopiales, l'affiche ça commence toujours comme ça. L'illustrateur choisi est invité 2 jours à Nantes avec Marie Masson mais aussi avec Gilles Francescano pour s'imprégner un petit peu. Et ensuite il soumet des propositions. Comment ça s'est passé pour vous ?
Alors, comment ça s'est passé pour moi ? Ben, on m'a gentiment invité, je crois que c'était plus ou moins une semaine après Pâques, pour découvrir cette ville que je connaissais très très peu, puisque j'étais venu l'année dernière en tant que jury cinéma, et donc j'ai surtout vu les salles et pas beaucoup la ville. Donc, ça s'est très bien passé, j'ai découvert une ville magnifique. Enfin, tout de suite, c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vivrais bien à Nantes. C'est un endroit, vraiment, on se sent tout de suite très très bien, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de jeunes. Visuellement, c'est très difficile parce qu'on ne se dit pas « Ah, ça, je peux faire ça, ça, ça ». C'est quelque chose qui a besoin de, je dirais, de mûrir un petit peu. Et donc, moi, je suis plutôt bien dans mon bureau, à l'aise, quand il n'y a rien qui me perturbe visuellement pour trouver les idées. Donc, je me suis imprégné, mais vraiment de manière totalement ouverte de la ville. Et puis, je me suis dit « On verra après ». J'ai pris quelques photos, mais je me suis rendu compte que je me suis servi de rien du tout. C'est souvent comme ça. Après, les idées, elles viennent, et puis c'est ça qu'on doit suivre. C'est pas tellement les photos, les documents qu'on a. Si ça peut aider pour documenter, c'est bien. Mais c'est voilà, ça s'est très bien passé. Il se trouve qu'en partant, Marie m'a donné Marie Masson qui est là m'a donné un vieux livre de photos de Nantes. Et finalement, c'est là-dedans que j'ai été pêché. Ma documentation. Plus un peu de Google Maps, je pense aussi, j'ai un peu travaillé avec ça. Mais bon, l'idée était tellement simple pour moi, tellement claire, que bon, au fond, ouais, j'ai créé une espèce de ville, une espèce de Nantes qui n'existe pas, mais disons que voilà, c'était plutôt le concept qui était important pour moi, et puis l'ambiance, les jeux de lumière. Alors, au mois de mai, je leur ai envoyé une esquisse, je ne sais pas si on peut demander, voilà. Donc ça, c'est la première esquisse que j'ai envoyée à Marie et à toute son équipe. Voilà, c'est assez rigolo parce que parfois, la création d'une affiche, c'est difficile. On n'a pas les couleurs, on n'a pas la composition, on n'a pas l'idée, on chipote, etc. Et en fait, ici, ça, c'est le premier jet et couleur comprise, c'est-à-dire que ça n'a pas été retouché. Je me suis dit, tiens, voilà, ça correspond à ce que j'avais envie de faire. J'étais très content de l'ambiance générale de l'affiche, de l'idée, même très simple, je pense qu'elle fonctionne. Et donc, quasiment, l'affiche, elle est faite à ce moment-là. Alors, il se trouve qu'il y a une petite histoire rigolote sur cette étape graphique. c'est que, mais vous allez voir qu'elle aura un sens un petit peu plus tard, c'est qu'au mois de, alors c'était au mois de je ne sais plus, le temps, vous savez, c'est terrible, hein, le sujet de cette utopiale, c'est le temps, mais moi, le temps n'existe plus. Je ne sais plus vous dire quand, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais il faisait encore froid, bon, je ne sais plus. Je suis à Paris et je vais voir une amie qui exposait. Et je vois Denis, qui était là, Denis Bajram, qui était là. On discute et tout ça. Je lui dis, tu sais, qu'ils m'ont appelé pour faire l'affiche. Ah bon ? Je lui dis, tu veux la voir ? Puis je lui montre l'affiche. Il me dit, ah oui, c'est très chouette et tout, mais il y a un truc. Il y a un truc, Laurent, que je changerais, c'est le remontoir, je le mettrais vraiment derrière. Parce que tu vois, il capte trop la lumière, il détourne le regard. Et il a raison. Quand on y pense bien, on se rend compte que l'œil doit se diriger vers... En fait, by the way, c'est Jules Verne qui sort de la... Je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais c'est Jules Verne qui sort de la montre. Il me dit, bon, ouais, écoute, ce serait bien que tu bouges un petit peu, ce serait plus dynamique, tout ça. Ok, pas de problème, merci, chef. Et puis, bon, je rentre au bureau, j'ai encore quelques affiches à faire, etc. Je m'y mets pas tout de suite. Et je crois que c'était au mois de juillet. Mi-juillet, je commence à m'atteler au travail. Et donc, là, on va peut-être montrer l'affiche. Voilà. Alors, oui, Denis aussi m'avait donné le gentil conseil, parce que je me disais, comment tu fais ? Parce que c'est très compliqué de designer une affiche, de la composer avec plusieurs formats. C'est-à-dire que si elle n'avait été que verticale, le format de l'affiche, vous voyez tous, c'est pas un problème, mais comme elle est sur plusieurs supports et plusieurs formats, c'est compliqué. Il me dit, écoute, moi, c'est pas compliqué, j'ai fait une image carrée. Alors, c'est vraiment très rigolo, parce que récemment, sur Facebook, Denis et moi, je crois que c'est Jeanne de Batz qui a mis les deux images l'une à côté de l'autre, et on s'est rendu compte, alors c'est marrant, que les dynamiques de composition étaient la même. Si on regarde l'affiche de Denis, c'est presque la même inclinaison de la montre et de son robot, les mêmes axes de lumière. Moi, c'est de la lumière, lui, c'est une ombre portée sur la Loire. Et je crois que la ville aussi, elle correspond à sa ligne d'horizon. Donc, ça, c'était assez amusant. Et le fait que l'on voit ce petit remontoir qui est plus derrière, eh bien, en effet, on voit un oréo. Et oui. C'est des choses qui arrivent. Moi, j'y ai pas pensé du tout. Denis non plus ne connaissait pas. Et en fait, voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Voilà, moi qui ne mange jamais d'Oreo, c'est un peu le commentaire numéro 1 sur Facebook qui est sorti, un Oreo géant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai été finalement financé par Oreo. Voilà, j'ai reçu un gros chèque. Vraiment, c'est vraiment très généreux.
Donc, ça aurait pu être Kinder. Hein.
Oui, voilà. Voilà, exactement. Donc, non, c'est une blague. Hein. Je n'ai pas été financé par Oreo, je n'ai pas gagné d'argent. Mais donc, voilà. Donc, ça, ici, ce que vous voyez là, c'est le format, je dirais, carré dans lequel l'équipe de la cité a pu zoomer, cadrer l'affiche, etc. Moi, mon idée générale, en fait, j'avais envie de jouer avec un contraste entre la vieille ville. Et évidemment, cette montre qui date d'un autre siècle, et la partie supérieure qui est très, très moderne, même assez minimale d'ailleurs. On comprend qu'on est dans un futur plus ou moins proche grâce aux véhicules volants. Mais au fond, on ne sait pas si le bas est un espèce de flashback ou une image historique. Et le dessus, j'avais envie de jouer avec les deux contrastes et de créer une image, je dirais, uniforme. Alors moi, dans mon travail, j'aime bien travailler avec la lumière et les couleurs et les ambiances. Les gens qui verront mon travail ici juste à côté s'en apercevront. Donc j'avais envie de jouer avec une atmosphère de matin, donc une espèce d'aurore, quelque chose comme ça, avec ce ciel typique de la côte, avec ces nuages un peu effilés, etc. Et d'avoir un peu ce voyageur du temps qui arrive comme ça au petit matin. Alors vous voyez, il y a un peu de brume à l'arrière-plan. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait la dernière. Oui, c'est la dernière version. Donc voilà. En gros, j'avais envie de jouer sur ces deux contrastes-là et de créer ma propre ville de Nantes, ce que j'avais retenu de la ville de Nantes, les éléments un petit peu, je dirais, principaux. Donc je m'excuse pour les... Bon, pour les ayatollahs de la géographie et de... Donc j'ai fait un petit peu comme je pensais. Et donc voilà, en gros, l'affiche était pour moi conçue à partir du moment où, quand j'ai envoyé le croquis, elle était déjà faite, il ne fallait plus qu'à mettre au net, j'ai envie de dire.
Là, quand on regarde l'affiche, on a presque l'impression du début d'une histoire. On se raconte une histoire quand on est illustrateur.
Oui. Alors, quand j'étais étudiant, j'avais un professeur qui me disait tu ne dois rien raconter dans les affiches, ça doit être un message immédiat, tu es trop narratif. Et pendant toutes mes études, j'ai arrêté de raconter des histoires. Mais ça m'a rattrapé. Et au fond, j'adore raconter des histoires. J'adore le début d'une histoire, j'adore ça. Et même dans mes affiches de cinéma, j'aime raconter des histoires. Et parfois, la continuité d'une histoire aussi, ou des moments qui ne sont pas forcément dans le film. Et en effet, c'est vrai, alors, je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'ai un côté assez cinématographique dans tout ce que je fais. Mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Et j'aime ça.
Et quand on se balade après aux Utopiales et qu'on voit les affiches dans la ville, ce qui a été très personnel, oui. Comment vous le vivez maintenant? Tout le monde l'a vu? Elle est partout, cette affiche?
Oui, moi, je le vis très bien. Je suis très content de voir mes affiches dans la ville, évidemment. Maintenant, oui, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, parce que en même temps, je suis très fier, mais je n'ai pas envie de paraître pour quelqu'un qui est tellement fier que, bon, voilà, c'est vrai que c'est pour moi un grand honneur de faire cette affiche, l'affiche de cette édition, parce que c'est que des grands noms avant moi. Donc, c'est une confiance qu'on me fait, donc je devais être là, au rendez-vous, pour cette affiche.
Et une dernière question par rapport aux autres affiches. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne les aviez pas regardées avant de faire. Maintenant que vous les avez vues, comment vous vous placez, vous?
Moi, je suis le numéro 1, clairement. Je veux dire, je pense qu'on est tous d'accord.
Denis Bajram est par là? Non.
Oui, mais bon, voilà, il est là, Denis, voilà. moi, évidemment, je les ai regardés. Il y a plein de grands artistes que j'admire depuis toujours. Donc, honnêtement, Alors, vous savez, quand on est un artiste ou quand on est un graphiste ou un illustrateur, c'est dangereux de regarder avant de travailler. Parce que, vous voyez, j'étais obligé de regarder l'affiche de Denis l'année dernière, et on se rend compte qu'on a les mêmes axes de composition. Donc, c'est probablement pas un hasard, vous voyez. Donc, puis il y a les affiches de Moebius, de Skuyten, de tant d'autres, de Mézières. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà. Donc, je suis très, très heureux d'avoir fait cette affiche, et très, très heureux de faire partie de cette bande, de cette collection d'affiches.
Super. Merci beaucoup, Laurent Durieux. On va vous retrouver pendant tout le festival. Il y a une superbe expo là. À voir. Donc j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller voir l'expo. Il faut vraiment la voir. Je remercie une dernière fois Rémi et Manon pour leur traduction donc en langue des signes. Et puis, vous pouvez les applaudir. Ça a l'air tellement facile quand on les regarde comme ça. Et puis je vous invite maintenant tous à venir inaugurer, en plus des Utopiales, le buffet. Merci à tous, bonne soirée.